Bonjour à toutes et à tous.
Et bienvenue dans l'interview de Sona.
Menée par Lilou
et Camille.
Diffusée le samedi matin à 11h.
Et le dimanche après-midi à 14h.
En exclusivité sur Transistor.
Bonjour Arnaud Le Gueflec.
Bonjour Camille.
Je suis ravi de pouvoir m'entretenir avec toi. On va parler de ton nouvel album et puis aussi de ton parcours artistique. Déjà, comment ça va ?
Ça va bien. Je suis bien occupé en ce moment, mais on attend le printemps, quoi.
Sur la promo de ton nouvel album et tout ça ?
Ouais, moi j'ai toujours plusieurs choses sur le feu et actuellement, c'est pas mal la bande dessinée qui m'occupe. Tu sais, parce que je fais du scénario de bande dessinée. Et donc là, je travaille sur une biographie de Marcel Gottlieb avec un dessinateur qui s'appelle Julien Solé et pour les éditions Fluide Glacial. Voilà, c'est ça qui m'occupe en ce moment.
Et t'as une BD qui est sortie début 2024 aussi
Oui, il y a eu deux albums en 2024. Il y a eu Vivre libre ou mourir, qui est une histoire du punk français de 81 à 89 avec Nicolas Moug au dessin. Et une bande dessinée avec Julien Solé, chez Fluide Glacial déjà, qui s'appelait Les Vacances de Monsieur Léon, qui est sorti aussi la même année. Voilà.
Donc une collaboration qui a bien fonctionné, vous continuez là-dessus.
En général, c'est ça qui est chouette avec l'expérience que j'ai pu avoir avec des dessinateurs de BD, c'est que c'est souvent des relations au long cours, on construit une relation de confiance et ça s'est toujours bien passé, j'ai jamais eu de trop de difficultés. Quand on peut, quand les calendriers et les plannings des uns et des autres fonctionnent, on essaye de durer et de faire plusieurs albums ensemble, quoi.
Et ben c'est super. Alors pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, parce qu'il y a du bruit autour, on est où là ?
Là on est au Hall Saint-Martin, centre-ville de Brest, pas très loin de la place Guérin. Moi j'habite dans le quartier et voilà, ça me paraît être un bon endroit pour discuter.
Ouais, carrément. C'est un endroit qui est important pour vous, ce quartier de l'Ouest ?
Oui, là c'est les Halles juste à côté, c'est là que je vais faire mes courses régulièrement quand je peux, et puis c'est là qu'il y a le marché de Saint-Martin. Mais finalement, oui, je pense qu'une partie de ma famille est originaire d'ici, c'était la cité ouvrière de Kerigonan qui est située juste à côté, qui maintenant a changé d'aspect, mais c'est là que vivait la famille de ma mère, par exemple.
Et donc tu es brestois, tu as toujours vécu à Brest ?
Non, quand j'avais un an, je suis né à Brest, et quand j'avais un an, mes parents sont partis, ils étaient fonctionnaires, ils sont partis dans la Manche, dans le Calvados, puis dans la Manche, pour le gré des mutations de leur boulot respectif. Et j'ai donc passé toute mon enfance et mon adolescence là-bas, et c'est quand j'ai eu mon bac que, ayant nourri une espèce de fascination pour Brest, parce que c'est là qu'on venait quand c'était les vacances, et que on habitait à la campagne et quand on venait ici c'était la ville, et il y avait un côté romanesque, quasi cinématographique dans cette ville. J'avais noué une sorte de fascination pour la ville, donc dès que j'ai eu mon bac j'ai fait ce qu'il fallait pour revenir ici et de grosso modo je n'en suis pas trop parti depuis.
Ok, et ben justement quelle influence ça peut avoir pour un artiste comme toi sur tes différents médiums d'habiter et puis de vivre et puis de construire une sorte de relation avec une ville comme Brest qui est quand même un peu particulière?
Je sais pas trop, enfin si je sais un peu, mais c'est une relation totalement émotionnelle, hein, donc c'est toujours difficile d'analyser l'émotionnel. Mais oui, c'est des souvenirs d'enfance en fait, hein. Souvent c'est là que les choses se nouent, et c'est des souvenirs de voir les bateaux de guerre dans l'arsenal de Brest, de savoir qu'un tiers de la ville était zone interdite, moi ça me fascinait. Ça faisait un peu petit Berlin, toute proportion gardée, quoi. Donc ça me parlait, j'avais envie d'inventer des histoires qui se passaient là. Et puis c'est vrai que comme la famille était originaire de Brest, les histoires qu'on racontait dans la famille, souvent liées à la Seconde Guerre mondiale, c'était toujours des histoires liées à la ville, liées à ce quartier, ou liées à Recouvrance, ou liées à tout ce qui s'est passé pendant la guerre ici. Donc c'est une ville qui pour moi est une sorte de centrifugeuse à histoire, quoi. C'est-à-dire que quand j'y vis, je suis inspiré. Et quand j'essaie d'aller vivre ailleurs, je suis moins inspiré. Je m'ennuie et j'ai la nostalgie de Brest, quoi.
Ok, t'as des exemples d'endroits où t'es allé, où tu t'es dit, en fait, je le sens moins, je suis moins créatif.
Moins créatif, non, ça va, mais moins... un peu triste, quoi. Tu vois, tu fais de tristesse, tu te demandes pourquoi t'es là, en fait. C'est un peu... Moi, j'ai vécu à Quimper quelques années, j'ai rien contre Quimper, c'est une super ville, mais je me suis fait un peu chier à Quimper. Donc j'avais un peu le sentiment de... Tu vois, quand tu es dans une ville où tu te poses pas la question, t'as pas envie d'être ailleurs, t'es là. C'est pas que tu la trouves plus belle qu'une autre, ou que tu la trouves mieux qu'une autre, ou que tu brandis un drapeau quelconque, ça m'est complètement étranger. C'est une ville qui a tous ses défauts et qui a aussi sa part d'ombre. Mais en tout cas, c'est une ville où quand j'y suis, je ne me pose pas la question de savoir si j'ai envie d'être ailleurs, ce qui est plutôt bon signe.
Alors, on va parler un peu de ton nouvel album, Comme Kafka, qui est sorti fin novembre dernier. Ouais. Est-ce que d'abord, tu peux revenir un peu sur ton parcours musical ?
Ouais. Moi, j'ai écouté beaucoup de chansons françaises quand j'étais enfant avec mes parents, notamment Georges Brassens, ce qui m'a vachement marqué. Et puis quand je suis devenu adolescent, je me suis pris un peu le rock'n'roll dans le buffet. Je me suis passionné pour le rock garage, le Velvet Underground ou le rockabilly des origines. Et ça a commencé à être le début d'une sorte de passion musicale dévorante qui ensuite m'a entraîné plutôt vers les marges, vers les musiques bizarres, les outsiders, les apaches de la musique et les personnages un peu les surréalistes de la musique. Quoi. En gros, c'est vers ça que j'ai été ensuite attiré.
En France ?
En France comme à l'étranger, quoi. Beaucoup de musique américaine, quand même. Beaucoup de musique américaine, parce que le rock and roll, quoi. Ça, vraiment, ça, la musique, ma plateforme de départ, c'est ça, quoi, on va dire. Et donc, très vite, j'ai commencé à essayer d'apprendre à jouer de la guitare pour pouvoir jouer un peu de rock and roll, modestement. Et je me suis rendu compte qu'avec 3 accords de guitare, comme j'écrivais déjà de la poésie à l'époque, on pouvait faire des chansons en français, mais composées comme des morceaux de rock, quoi. Donc j'ai commencé à faire ça et puis ensuite les choses se sont emballées progressivement. J'ai monté un groupe de rock qui s'appelait Le Petit Fossoyeur dans les années 90 avec quelques camarades brestois. Un groupe qui a pas mal roulé sa bosse. On a fait beaucoup de premières parties de Mieux Sec, de Louise Attaque, des groupes comme ça, Zebda, des groupes comme ça. On a même fait la première partie de Pierre-Paul Jacques, c'est pour vous dire. À l'époque, on tournait avec Joe Bernard, qui est un tourneur qui est toujours en activité dans le coin. Et il nous avait demandé où est-ce qu'on voulait jouer. Je lui avais répondu, on veut jouer partout et dans n'importe quelles conditions. Parce que l'idée, c'était quand même de découvrir un peu, de vivre cette vie-là, quoi. Et on n'était pas très regardant sur le montant des cachets, sur quoi que ce soit. Donc on a écumé longtemps les bistrots, les cafés, les cafés-concerts du Finistère notamment. De Bretagne aussi, et on a fait 2 albums.
À cette époque-là, tu vivais de la musique, c'était ton activité principale ?
Non, pas du tout, non. J'étais enseignant, je commençais à travailler comme prof à ce moment-là, j'ai eu mon CAPES à ce moment-là.
Prof de français ?
Ouais, prof de français, j'ai fait des études de lettres à Brest, c'est ça qui m'a permis de revenir habiter à Brest, de m'inscrire à la fac ici. Donc je travaillais toute la semaine comme enseignant, à l'époque à Quimper, et le week-end on écumait les bistrots, donc ça a duré quand même quelques années, 4-5 ans. On a fait 2 albums. Et en studio. Et à l'époque, j'étais un peu insatisfait du fait de passer par les studios d'enregistrement, parce que c'était aussi passer un petit peu sous les fourches codines de l'ingénieur du son, quoi, qui imposait aussi parfois, des choses que tu savais pas trop bien comment il fallait que tu te positionnais par rapport à ça, la réverb sur la voix du chanteur, etc., etc. Donc j'ai commencé à me passionner pour les 4 pistes à cassette, ces petits appareils qui permettaient de s'enregistrer tout seul, avec une piste pour la voix, une piste pour la guitare, une piste pour les claquements de main et une piste pour les chœurs. Et tu fais ton disque, tu fais ta cassette tout seul, quoi. Alors évidemment pas avec la même qualité, mais en même temps avec une totale liberté, quoi. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça et j'ai fait plein de cassettes à cette époque-là, toujours à la fin des années 90.
Avant qu'il y ait les ordinateurs et les logiciels.
Voilà, juste avant. Et c'est sorti en des cassettes tirées. La pochette était photocopiée, je l'ai dupliqué moi-même, je l'ai donné ou je l'ai vendé. C'est sorti après en CD, sous forme de compilation, une compilation de tout ça qui est sortie, qui s'appelle La vie sous cloche, sortie en 2002.
Donc ça, c'était un projet solo
Projet solo, total solo. Et après, j'ai découvert l'informatique musicale, donc je me suis rendu compte qu'on pouvait faire aussi d'autres choses avec un ordinateur qui, à l'époque, était quand même largement défaillant. Et donc, j'ai commencé à enregistrer, je crois que j'ai fait 2 disques comme ça, tout seul. Après, j'ai rencontré des musiciens qui étaient plutôt issus de la scène jazz, musique improvisée, musique bizarre, un peu brestoise, donc c'était parfait pour moi. Et on a monté un groupe qui s'appelait l'Orchestre Préhistorique. Ça s'appelait Arnold Gueflec et l'Orchestre Préhistorique, et on a fait 3 albums ensemble, avec à chaque fois de plus en plus d'amélioration au niveau de la qualité du son, etc. Le dernier a été enregistré en studio, puis on jouait un peu partout, hein, dans des conditions plus... plus correcte que celle du petit fossoyeur. On avait appris un petit peu d'âge, on n'avait pas envie de jouer forcément la même vie rock'n'roll, donc c'était plus... quand même, on jouait un peu moins souvent, mais dans des meilleures conditions. Après, j'ai rencontré John Trapp, qui est un musicien qui est basé à Wellgoat, avec qui on a fait une dizaine d'albums ensemble, soit pour lui, soit pour sa compagne qui s'appelle Outi, soit pour moi, soit pour les enfants. On a fait des chansons pour enfants aussi à cette époque-là. Voilà comme mon parcours, grosso modo. Et puis après, j'ai rencontré d'autres musiciens avec qui j'ai pu faire un album qui s'appelle L'Orage, qui est un album assez électrique qu'on a enregistré en studio avec Régis Boulard à la batterie, et Olivier Mélano à la guitare et Thomas Poli au synthétiseur, et John Trapp qui faisait partie aussi de l'équipe. Et puis ce dernier album qui s'appelle Comme Kafka, que j'ai enregistré avec Moqueux, Claire Grupalo et Thomas Poli.
Bah on va en reparler peut-être aussi de Moqueux et Thomas Poli que moi je ne connaissais pas, mais Claire Grupalo elle fait partie du groupe Bacchantes. Ouais. Et on a reçu Amélie Grosselin, ouais, qui est aussi dans ce groupe il n'y a pas longtemps à Transistor. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration et de comment vous avez rencontré les personnes qui ont bossé avec vous sur Comme Kafka et puis comment ça s'est passé?
Pour retracer cette histoire-là, c'est toujours des histoires au long cours. On a créé avec ma femme Maëlle un festival à Brest qui s'appelle le Festival Invisible en 2006, qui était dédié aux musiques, aux musiciens en marge, aux outsiders, à l'underground en général. Et c'est un festival qui existe toujours, hein, qui va fêter sa 20e édition cette année, là en novembre. Et toutes les personnes avec qui j'ai pu collaborer sur Comme Kafka, je les ai rencontrées au Festival Invisible. C'était d'ailleurs le cas pour le précédent album, L'Orage. Mais Moqueux, je l'ai rencontré lors d'une soirée de soutien au Festival Invisible. On a tout de suite sympathisé, on s'est découvert une passion commune pour certains musiciens, ce qui nous fascinait tous les deux. Donc tout de suite, c'était évident qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. On a mis quelques années à trouver quoi, mais on savait qu'on allait le faire. Claire Grupalo, je l'ai rencontrée parce qu'elle est venue jouer avec Bacchantes, qu'on avait programmé au festival. C'était un super concert et j'ai vraiment sympathisé avec elle à la fin du concert. Je lui ai proposé, ça te dit de venir chanter avec moi sur un disque. Elle m'a dit oui tout de suite. Donc c'était super. Et puis Thomas Poli, je l'ai rencontré aussi au Festival Invisible. Donc finalement, c'est le dénominateur commun de toutes les personnes qui apparaissent sur ce disque.
C'est toi qui t'occupes de la programmation du Festival Invisible ?
Plus maintenant, c'est moi qui m'en occupais au début, quand on a commencé, mais pour qu'une histoire puisse durer, il faut parfois savoir passer la main. Et bon, je ne suis pas un programmateur dans l'âme, j'ai des choses que je voulais programmer, je les ai programmées, et puis après j'ai voulu passer la main à des programmateurs plus expérimentés, plus pointus que moi. Alors je suis toujours là un petit peu en deuxième position pour donner mon avis, disons quoi. C'est-à-dire que s'ils veulent programmer Florent Pagny, c'est moi qui dis non, quoi, par exemple, voilà.
D'accord. Donc au début, tu voulais te faire plaisir et puis ça a pris de l'ampleur et tu t'es dit...
Au début, on a créé ce festival parce qu'on voulait voir des artistes à Brest qu'on n'avait jamais l'occasion de voir. Et à l'époque, on était en 2006, on était quand même encore beaucoup plus enclavés peut-être que maintenant. C'était encore le bout du monde, quoi, ici. Et puis au début, on fait les choses de soi-même. C'est comme quand tu fais ton premier disque, tu fais la pochette tout seul. Puis après, avec le temps, tu finis par rencontrer des gens qui savent le faire et tu leur confies le soin de faire la pochette à ta place. C'est toujours, je trouve ça intéressant de ne pas vouloir toujours tout contrôler de A à Z. Donc le festival, au début, c'était fallait bien que quelqu'un programme, donc on s'y est collé, ma femme et moi. Et puis à un moment, on a rencontré des gens qui étaient vraiment à fond dans cette logique de programmation. Et je pense qu'on a eu la bonne idée de leur passer la main et ça a permis de renouveler aussi le type de groupe et puis d'actualiser aussi les choses et de renouveler un peu l'inspiration, quoi.
Donc tu es aussi un musicien passionné de l'écoute, un chineur de musique.
Ouais.
Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, et puis même peut-être avant? Et quel impact la musique que tu écoutes a sur la musique que tu fais?
J'écoute toujours des trucs différents tous les jours. Hein. C'est souvent un peu le carburant de la journée, c'est-à-dire que je me lève et j'essaie d'écouter des choses que j'ai pas écoutées la veille. Donc je suis toujours à la recherche de choses un peu, si c'est possible, avec une étrangeté, c'est ça qui m'intéresse le plus. Là, en ce moment, j'écoute beaucoup Sonora, le jazzman cosmique, qui est mort depuis longtemps, mais que j'écoute depuis très longtemps, et j'ai un super coffret de ses premiers albums des années 50, qui c'est super étrange, et ça me fascine. Donc, j'écoute beaucoup ça en ce moment, comme il fait froid dehors, ça réchauffe à l'intérieur. Et puis, pas mal de musique psychédélique, pas mal de musique drone, de musique ambiante aussi, beaucoup, depuis quelques années. Et puis, de temps en temps, un peu de punk. Enfin, voilà, c'est assez variable.
On va peut-être se faire une petite pause musicale pour nos auditeurs, et puis on va reprendre après. Avec un morceau de ton album, c'est toi qui choisis.
Bah écoute, on a quand même passé la balle perdue, par exemple.
Très bien, et bien on écoute La balle perdue d'Arnaud Le Goëfleck et on se retrouve juste après. On est de retour avec Arnaud Le Goëfleck, toujours dans cet entretien, pour parler de son nouvel album Comme Kafka.
Allons-y.
Allons-y. Alors, moi, je voulais te demander, donc tu as été prof de français pendant longtemps, tu l'es toujours ?
Non, ça, j'ai arrêté en 2016.
Et c'était pour te consacrer à ton activité en tant qu'artiste pluridisciplinaire ?
Oui, c'est pour ne plus faire que ça. Ce que j'ai fait pendant toute ma carrière d'enseignant, j'avais deux boulots, on va dire. Dès que j'ai pu travailler à mi-temps, je suis passé à mi-temps. Et dès que j'ai pu ne plus travailler du tout comme enseignant, j'ai passé la main. Je n'avais jamais plus le temps de tout concilier. Ça devenait compliqué. Et ce n'était pas l'activité qui manquait. Donc voilà, j'ai sauté le pas, quoi, comme on dit.
Et ça a changé beaucoup de choses de te consacrer entièrement à la création ?
Il y a plus de temps. Donc tu es moins obligé de te saucissonner ou de te couper en deux. C'est quand tu enseignes le matin et que tu écris l'après-midi, bon, c'est une gymnastique, hein. C'est très utile d'apprendre ça parce que ça oblige à se discipliner et donc à être efficace. Mais maintenant, je peux écrire le matin et faire de la musique l'après-midi. Donc je suis plus productif qu'avant.
Alors justement, je me demandais entre l'écriture et la musique. C'est vrai que tu as une écriture parolière qui est très littéraire, on peut comprendre pourquoi. Et tu disais d'ailleurs tout à l'heure que tu as commencé avec des poésies et qu'ensuite c'est venu en musique. Aujourd'hui, par exemple, sur l'album Comme Kafka, est-ce que c'est plutôt des poèmes que tu vas mettre en musique ou des musiques qui t'inspirent une certaine écriture? Enfin, dans quel ordre ça se fait entre les paroles et la composition?
Bah, c'est assez variable, hein, mais j'écris pas, quand j'écris de la poésie, c'est pas trop le même registre que les chansons, parce que ça doit tenir tout seul debout, alors qu'une chanson, ça c'est fait pour être écouté, pas pour être lu. Ça m'intéresse pas trop les textes des chansons publiées. On le fait parce que les gens nous demandent, mais je trouve que c'est une chanson, c'est plutôt quelque chose qui s'écoute plutôt que quelque chose qui se lit. Mais là, en l'occurrence, pour Comme Kafka, la règle du jeu, c'était Moqueux qui a composé tout l'album. Et donc, il m'envoyait des musiques, des boucles ou des musiques. Et moi, j'essayais de transformer ça en chanson, en rajoutant un texte dessus, en trouvant un moyen de le chanter, en trouvant une manière rythmique de placer les mots dessus. Et c'est comme ça que l'album a été fait, quoi. Vraiment avec une règle du jeu très claire. Sur l'album précédent, c'était un peu plus variable. Il y avait des chansons que j'avais composées, d'autres que d'autres avaient composées. C'est des fois des textes avant les paroles, des fois la musique avant les textes. C'était assez variable. Mais là c'était vraiment une sorte de règle du jeu, comme un jeu.
Et sur cet album, on retrouve beaucoup de thèmes qui vont être joués par les instruments et repris à la voix. Oui. On a la même mélodie à la voix aux instruments. Donc ça, c'était une contrainte que tu as prise, c'est-à-dire il est arrivé avec certaines mélodies et toi, tu as chanté par-dessus.
C'est-à-dire que Moqueux, c'est quelqu'un qui c'est un mélodiste et quelqu'un qui... c'est vraiment un musicien qui a une conscience aiguë de l'harmonie et qui sait très bien ce qu'il veut. Il a son idée vraiment précise sur la question. Donc... souvent, il m'a carrément joué à la guitare la ligne de mélodique pour la voix, ce qui était une super contrainte évidemment pour moi, mais en même temps j'aime bien travailler sous contrainte, c'est ça qui libère parfois l'inspiration. Donc là, c'est vraiment, ça a été assez précis, et pour l'enregistrement des voix, j'étais assez coaché par Moqueux aussi pour que ce soit vraiment, je pense, j'ai jamais autant chanté, quoi. D'habitude c'est presque un peu plus parler, chanter.
Et puis là, tu es accompagné tout le temps presque par Claire Grupalo, vous chantez en chœur.
Ouais, parce que Claire, c'est une grande chanteuse. Hein. C'est vraiment une grande chanteuse. Et moi, j'aime pas trop les duos où il y en a un qui chante, puis l'autre qui chante, où on se répond comme si on était un couple. J'aime bien quand les deux chantent tout le temps ensemble. Donc, soit elle double les paroles, soit elle fait des chœurs, mais permanents, soit elle parle pendant que je chante. Enfin bref, mais il y a toujours un. On est tout le temps présent, tout le temps je crois quasiment sur tous les morceaux.
C'était une manière pour toi de ne pas te retrouver seul face à cette contrainte, ou c'était une idée artistique?
C'était une idée artistique, parce que bon, chanter seul, moi je l'ai fait souvent, mais j'ai toujours aimé chanter avec des filles, parce que question de tessiture de voix, vu la voix que j'ai moi, je trouve qu'elle gagne à être complétée par quelqu'un qui ne chante pas sur la même fréquence, on va dire. Et je trouvais que j'aime beaucoup, je sais pas si tu connais ça, Lee Hazlewood et Nancy Sinatra, qui étaient un couple un duo de chanteurs-chanteuses des années 60 américains. Et ça m'a toujours fasciné, ce côté, la voix un peu grave de l'homme et la voix aiguë de la femme qui vraiment arrive à raconter la même histoire. Je trouvais que c'était vraiment une bonne... Donc c'était un peu une source d'inspiration depuis longtemps, ce genre de choses. Et avec Claire, elle a une voix très particulière, plus proche du chant lyrique. Il y a un côté pop, mais il y a un côté chant lyrique. Et donc, je trouvais que c'était un bon cocktail, quoi.
Carrément. Bah, avec le groupe Bacchante, d'ailleurs, on est vraiment plongé au Moyen-Âge, moi, je trouve. Ouais, il y a ce côté lyrique qui ressort vachement. J'ai eu l'impression, en regardant sur les plateformes de streaming, en regardant ce que tu faisais, que tu bossais avec le même label, l'Église de la Petite Folie. Qu'est-ce que ça t'apporte de bosser avec ce label et de sortir toujours là ton dernier album dessus?
Ce label, c'est ma femme et moi qui l'avons créé. Hein. C'est aussi simple que ça. On l'a créé en 2002. Mais déjà, à l'époque du Petit Fossoyeur, ça ne s'appelait pas l'Église de la Petite Folie. Ça s'appelait... comment ça s'appelait? Brontosaur Productions, je crois, à l'époque. Bon, il y a toujours eu l'idée de créer son propre label et de s'autoproduire. Pas forcément s'autoproduire que soi, d'ailleurs, mais produire aussi d'autres artistes. C'était le cas avec l'Église de la Petite Folie, puisqu'il y a eu quand même... 32 ou 33 ou 34 albums qui sont sortis sur le label, qui ne sont pas tous de moi. Ouais, c'était hérité un peu de l'esprit du punk, quoi. C'est-à-dire, même si nous, ce qu'on fait, c'est pas du punk, qu'on n'est pas des punks, mais on a retenu de cette leçon des punks, c'est bien de maîtriser son outil de production. Et que, voilà, quand c'est ton propre label, t'apprends plein de choses et tu acquiers une liberté, quoi. Donc, l'église de la petite folie, c'était un projet au départ familial, petite entreprise familiale qui s'est développée par la suite.
Et ta femme est musicienne aussi ?
Non, pas du tout, mais elle travaille dans le secteur. Elle dirige une salle de musique actuelle.
Laquelle ?
La Carène.
Moi, j'apprends plein de choses. Vous êtes très implanté à Brest, du coup, dans le milieu musical.
Ouais, on est très implanté. Au départ, c'était pas trop le cas, puisque moi, j'enseignais et Maëlle, elle travaillait à la mairie comme fonctionnaire territorial. Mais bon, à force, on a fini par des parcours réciproques qui font que maintenant elle dirige cette salle.
Y a quelque chose d'autre dont tu voudrais parler spécialement, je sais pas.
Non, pas spécialement, si ce n'est que peut-être ça peut intéresser les auditeurs qu'en parallèle de ces albums de chansons, j'ai pris l'habitude d'enregistrer pas mal de musique expérimentale. Et donc il y a un bandcamp de l'église de la petite folie qui s'appelle l'église de la petite folie @bandcamp. je sais plus quoi.
On mettra sur l'émission podcast sur un site internet le lien.
Il y en a un autre qui s'appelle Face B église de la petite folie Bandcamp, où là qui documente uniquement les choses un peu plus expérimentales, pas que les miennes d'ailleurs, celles des artistes du label, et là qui a beaucoup de choses à écouter dans un registre plus expé, plus psychédélique, quoi.
Super, et ben on va bientôt se laisser, mais avant s'écouter un dernier morceau de votre album, et puis encore une fois, c'est toi qui choisis.
Bah, ma foi, qu'est-ce qu'on peut écouter Le Chibolette.
Très bien, tu peux nous présenter un peu ce titre, de quoi il parle et...
Alors c'est compliqué, le Chibolette, c'est un mot que quand tu sais le prononcer, ça prouve que tu fais partie de la team, quoi. C'est-à-dire, c'est un mot où on voit que ta manière de le prononcer, que tu fais bien partie de la secte ou du groupe. C'est un mot biblique, je sais plus ce que ça veut dire d'ailleurs, Chibolette, j'ai oublié. Mais c'est un peu comme quand tu dis Les Neuvaines par exemple, ça te voit bien que t'es pas du coin, tu connais
le Faou.
Ou le Faou, tu connais pas le Chibolette, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un mot comme ça qui signe ton appartenance à ceux qui savent. Donc c'est une chanson, enfin ça botte un peu en touche autour de ça, c'est l'histoire d'un couple où manifestement un des personnages ne connaît pas le Chibolette et l'autre ne veut pas lui dire. C'est une sorte de fable sur les relations de couple.
Et bien tout de suite on s'écoute le Chibolette. Est-ce que je l'ai bien dit ?
Parfait.
Super, d'Arnaud Le Gouefleck, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci Camille.
Et puis à très bientôt.
À bientôt.
Tu ne sais rien de ce mot-là. Tu ne sais pas ce qu'il fait là. Oh, ne te demande pas pour ça. Savoir ne répond pas à cette question-là. Tant pis si tu ne connais pas le Chibolette. Mais tu aimerais faire la lumière sur ce secret que je t'éclaire. Oh, ne te mets pas dans cet état. Quoi te sert de souffrir, tu ne t'en souciais pas jusque-là. Tu vivais très bien sans connaître le Chibolette. Ne t'épuise pas, car tout n'est pas dans la définition. Tu tremblerais si tu savais sa signification. We'll be right back. débarrasser, je me sens.